de suite, on va entendre l'interview de l'artiste électro Fakir. Alors salut Théo, comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va super, merci.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît ?
Oui, bah du coup, je m'appelle Théo, j'ai 29 ans et je fais de la musique sous le nom de Fakir depuis une petite dizaine d'années, un truc comme ça. J'ai dû commencer en 2010 ou 2011.
Et donc, ton processus créatif, il fonctionne comment ?
C'est une grosse question. En fait, c'est un processus qui évolue, je me laisse assez libre dans le processus, quoi. J'aime pas prendre rendez-vous avec l'inspiration, du coup, je compose jamais en studio. Je vais jamais louer un studio pour me dire, vas-y, je vais faire des morceaux. Du coup, tout se passe chez moi, généralement. Au début, c'était quelque chose qui venait à partir d'un sample. Je me basais sur un extrait de morceau ou un truc que j'aimais bien et en fait je construisais autour de ça. Et maintenant, pour le prochain album et puis plus récemment, enfin c'est vraiment ce que je fais. Je me pose sur mon piano et puis je cherche une grille d'accords et en fait à partir de là, je vais construire un morceau, quoi.
D'accord. Donc maintenant, en fait, c'est vraiment une base qui est tienne et non pas quelque chose que tu as pris comme sample pour après le rééditer.
Ouais, exactement.
Très bien. Tu utilises quoi comme setup pour compo ?
Je me suis du coup installé à une espèce de petit studio chez moi. Donc j'ai un clavier, j'ai mon laptop et puis mon casque et puis en fait tout part de là, quoi. Du coup j'ai pas grand chose, enfin si, récemment j'ai quand même commencé à m'intéresser aux machines, aux vraies machines, les vieux synthés et tout ça. Du coup j'ai un Juno 6, c'est une vieille machine de musée limite, et j'ai un Jupiter XM là, un des derniers trucs de chez Roland là, qui me sert un peu à tout. Du coup voilà, ça me suffit.
Et donc le Juno, c'est pour ajouter un peu une touche rétro à ta musique ou pas?
Oui carrément. Bah, je m'en sers vraiment quand j'ai vraiment besoin d'un truc qui sonne vraiment ancien avec le souffle d'un vrai synthé, etc. Et tout. Bon, après, il est un peu fragile. Du coup, faut pas que j'abuse non plus. Tu vois, genre, la touche hold est restée bloquée. Ce qui fait que, en fait, quelle que soit la note que je joue, elle est là forever. Enfin, donc, en fait, faut pas que je me plante.
Ouais, ça doit être assez problématique quand même quand t'as envie de jouer avec une note courte. Mais bon, je présume que c'est un truc que tu
veux. Voilà. Bah, faut jouer avec d'autres paramètres et d'autres trucs et tout. Mais c'est vrai que si je mets tout au max, je crée toutes les notes que je joue.
Énorme. Qu'est-ce qui t'a amené vers ton style de musique, donc qui est plutôt orienté électro-chill avec des sonorités orientales? Bon, bien sûr, je résume beaucoup parce que ça a beaucoup varié, notamment sur ton dernier projet. On y reviendra tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a amené vers ton style à la base?
Je pense que c'est surtout une question d'affinité, de trucs que je trouvais beaux. En fait, je suis pas du tout inspiré par la culture occidentale et les samples de soul, jazz, etc. C'est pas du tout mon background. Par contre, mes parents me faisaient vachement écouter de world music, en fait, quand j'étais gamin. Mm-hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté. Et puis même, je suis très, une grande imagination. Ça se manifeste sur plein d'aspects dans ma vie perso et en fait c'est aussi le cas dans ma musique, c'est-à-dire que j'aime bien créer des morceaux qui sont des invitations au voyage, parce que moi c'est comme ça que j'apprécie une œuvre en fait artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la danse, de la sculpture, de la peinture. J'aime bien partir en fait quand je regarde un truc. Du coup je crée ma musique assez naturellement comme ça, et du coup les samples de world music sont vachement plus propices à ce genre d'ambiance.
Ça fait de l'exotisme justement, comme pour Damas où tu vois tu rajoutes des petites notes un peu orientales, etc. Ça fait très voyager justement.
Ouais, c'est ça, carrément. En fait, c'est vraiment, et puis il y a une imagination aussi qui vient de la culture des dessins animés, tu vois, des films, des trucs que je regardais quand j'étais gamin, tu vois, même tous les Disney, tous les trucs et tout qui se passent dans des pays un peu exotiques. En fait, ben, c'est quelque chose qui continue de me nourrir encore aujourd'hui, quoi.
Et d'ailleurs, ton nouvel album, donc Everything Will Grow Again, Will Grow Again, quel accent, sortira le 26 juin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, carrément. Bah, alors, ouais, c'est un gros chapitre, cet album, parce qu'en fait, c'est à la fois un retour aux sources et puis en même temps une espèce de une avancée vers le club, en fait, un truc que j'avais jamais exploité jusque là. En fait, il y a une espèce de lassitude, tu vois, de la musique chill, parce que j'ai vachement exploré ce truc là, ce filon là, et puis en fait au fur et à mesure des années j'ai réalisé aussi elle était influencée de plus en plus par l'EDM, par la musique américaine. Et tu vois, au départ, moi, des mecs qui m'ont inspiré à faire de la musique, en fait, ça a été des mecs comme Bonobo, Cinematic Orchestra, Amon Tobin, et à la base ils faisaient presque de l'abstract hip hop, tu vois, un truc vraiment chill. Et en fait, tous ces mecs-là sont petit à petit déviés vers quelque chose de soit plus expérimental, soit plus house. Et la musique chill, en fait, est devenue un peu le terrain de jeu de l'EDM, tu vois, de groupes comme Odessa, etc. Et pendant un moment, ça m'a vachement influencé. J'ai continué à suivre ce filon-là. Et puis petit à petit, en fait, je me suis lassé. J'ai eu une espèce d'impression que les choses se répétaient, qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés, tout ça. Du coup, je me suis retourné vers mes premiers amours, tu vois, vers des bonobos, vers des Cinematic Orchestra, etc. Et en fait, ça m'a vachement parlé. Et puis, je sais pas si c'est une histoire d'âge aussi, de maturité, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais genre, j'ai commencé à avoir plus d'affinité justement avec la house, avec la musique de club. Je suis retourné dans cette direction-là. Du coup, c'est à la fois un retour aux sources et puis en même temps aussi une grosse prise de liberté et d'indépendance, surtout parce qu'en fait mes albums d'avant, j'avais tendance à faire vachement confiance aux gens qui m'entouraient, aux gens des labels et tout. Et puis là, pour le coup, c'est une histoire de maturité, mais en fait pour cet album-là, je me suis dit non, en fait j'ai envie de faire un truc qui soit 100% moi, 100% honnête, et où il n'y a aucune influence extérieure. Du coup voilà, c'est un album très DIY, en fait j'ai tout réalisé chez moi, et en même temps c'est aussi un retour à mes inspirations de base, quoi.
Donc en fait, le changement de direction artistique, c'est aussi parce que t'en avais un peu marre de te cantonner à l'électro chill et que tu avais envie aussi de revenir sur quelque chose de tes débuts, un petit peu entre guillemets.
Oui, c'est ça, ouais, complètement.
Quoi de mieux pour présenter l'artiste que d'écouter un morceau sorti sur son premier album Dark Lens, paru en décembre 2013. Ce sera avec le titre Damas. C'était Fake Here, Damas. On revient sur l'interview. Tu disais que tu avais donc travaillé donc ça chez toi, mais aussi tu as pu collaborer avec Alex Metric en Angleterre pour cet album. Quel a été son apport à ta création?
Alors ça a été assez énorme. En fait, moi c'est un exercice auquel je me suis pas du tout, j'étais pas du tout habitué, tu vois, de laisser quelqu'un d'extérieur entrer et mettre les mains dans mon univers. Généralement, c'était moi qui étais maître du jeu de A à Z, et puis en fait, soit j'écoutais les conseils, soit pas. Et là, pour le coup, j'étais vraiment full autonome. Et en fait, ça a été mon manager en fait qui m'a dit, mais mec, faut absolument que t'essayes de bosser avec Alex Metric. Je suis sûr que ça va matcher. va en studio avec lui, voir ce qui se passe. Et du coup, j'y suis allé comme ça, un peu au pif. On a écouté l'album et en fait, il commençait à avoir des idées et à me dire, mec, ça c'est bien, mais si on faisait ça, 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 avec d'autres machines, avec d'autres trucs, peut-être que ça sonnerait mieux. Et en fait, il avait que des bonnes idées. Et du coup, ça a été un espèce de coup de foudre un peu artistique et aussi d'ailleurs amical. On est très potes. Et on a bossé tout l'album comme ça. En fait, on a décomposé tous mes morceaux et on les a refaits avec ses idées, avec des nouvelles machines, avec des trucs et tout. Et c'était assez, c'est un processus qui m'a complètement, moi, déconstruit ma manière de faire de la musique. Et quand je suis rentré de ces sessions-là avec lui, du coup, on avait terminé l'album, tu vois, et je suis rentré chez moi. Et en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse un nouvel album, quoi. Enfin, que je continue sur cette lancée. Du coup, en fait, le confinement m'a servi à ça. En fait, j'ai posé un album nouveau à partir des méthodes que j'avais apprises avec Alex. J'avais vraiment l'impression, tu vois, d'être en face d'un maître Jedi pour moi. C'était vraiment un mec qui avait la même méthodologie, qui avait les mêmes buts, mais avec 10-15 ans d'expérience de plus et une rapidité d'exécution de ouf. Et du coup, moi, je regardais et j'étais là, waouh, mais attends, mais bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? C'est génial comme idée et tout. Ça a été un processus hyper, hyper enrichissant. Il y a des morceaux sur lesquels on n'a pas beaucoup retravaillé, et des morceaux qui sont très, très purs dans le sens où c'est vraiment ce que j'ai fait dans ma chambre qui est resté. Et puis il y a des morceaux qui ont été très transformés, comme Carrie, comme Tadlo, tu vois, c'est des morceaux qu'on a vachement rebossé tous les deux, quoi.
Ça va être super intéressant de travailler justement avec quelqu'un qui a un regard frais, extrêmement expert sur tes créations, parce que souvent quand tu es dedans, tu ne vois pas forcément les trucs que tu pourrais améliorer, puisque c'est vraiment ton projet et t'as pas forcément de recul par rapport à ça.
Oui, complètement. Puis en fait, en plus, c'était aussi un mec qui faisait partie de la scène qui, moi, m'influençait pour cet album-là vachement. Tu vois, toute la scène anglaise, Bicep, Forthead, Floating Point, Bonobo, etc. Puis c'est un mec qui est de cette génération-là, qui est anglais, enfin, qui est complètement le nez dedans, quoi. C'était aussi super d'avoir un mec qui faisait partie de mes influences, en fait, c'est avec moi, quoi.
Puis ça rajoute une patte d'authenticité aussi, parce qu'il sait de quoi il parle, quoi.
Ouais, complètement, ouais, c'est ça.
Je voulais savoir aussi, comment est-ce que tu as vécu la transition entre ta vie d'artiste relativement méconnue à l'explosion de ta carrière en 2014?
Ça a été forcément quelque chose d'assez étrange. En plus, c'est arrivé très tôt dans ma vie, tu vois, parce que j'ai commencé à faire de la musique en tant que fakir, je devais avoir 20 ans. Ça a mis 2-3 ans à démarrer, mais je veux dire, avant 25 ans, pour moi, t'es un peu encore en train de lutter avec tes problèmes un peu existentiels, identitaires et tout. Du coup, quand il t'arrive comme ça, une espèce de pluie de notoriété, un peu une espèce de buzz avant 25 ans, ça a tendance à vachement te déstabiliser. Et moi, ça a été complètement le cas aussi, quoi. C'était forcément très, très grisant. Et puis, j'étais hyper content de pouvoir vivre de ma musique et de la faire écouter à plein de gens. Et en même temps, c'est vrai que ces histoires de médiatisation, de popularité, en fait, c'était vachement difficile à gérer pour l'ego, quoi. Du coup, finalement, je pense que ma réaction, il y a eu une espèce de trop-plein à un moment donné, et ma réaction, ça a été de m'isoler, et je suis parti habiter 3 ans dans la campagne en Suisse, en me disant que ça allait guérir ce problème-là. Et effectivement, ça m'a permis de bosser, d'être loin de l'agitation parisienne, etc., et de faire vraiment le vide, et puis d'entamer une grosse thérapie aussi. Et du coup, quand je suis revenu à Paris, là, il y a 2 ans, en fait, j'étais prêt, j'avais les épaules, tu vois. Du coup, maintenant, je gère ça vraiment complètement différemment qu'au début. J'avais tendance au début à dissocier le personnage fakir du personnage Théo, en me disant que ce serait quelque chose de sain. En fait, maintenant, je réalisais que non, c'est la même personne, et puis qu'en fait, faut pas trop se prendre la tête. Finalement, il y a un espèce de truc un peu à la Jim Carrey. Il a dit un truc, moi, qui me parle vachement, qui disait, ouais, j'aimerais bien que tout le monde puisse expérimenter la notoriété pour enfin comprendre que, en fait, c'est du vent, c'est du flan, tu vois.
C'est dans Madame de Moon, ça, non?
Alors, c'est possible que ce soit ça. Moi, j'avais lu plutôt des interviews de lui en tant qu'acteur où il racontait ce truc où, tu sais, il a sa grosse beubare et puis il a ses paroles de philosophe sage, là, un peu. Et il disait un peu un truc comme ça. Et du coup, ouais. C'est un truc qui m'a vachement parlé parce que, effectivement, en fait, il y a un délire où on attachait énormément d'importance à être reconnu pour ce qu'on fait, parce qu'on est énormément dans cette société et que du coup c'est difficile de sortir de la masse. Et puis en même temps, une fois que tu l'as et une fois que t'es sorti de cette masse et que les gens te reconnaissent, c'est hyper étrange, en fait. Enfin, c'est ça repose sur rien, en fait. Il y a tout de suite un espèce de syndrome de l'imposteur où tu te dis, merde, en fait, est-ce que je suis réellement plus doué qu'un autre? Est-ce que j'ai réellement la légitimité, en fait, d'être populaire par rapport à d'autres trucs? Et puis la réponse, elle est toujours non, en fait. Il y aura toujours meilleur, il y aura toujours voilà, c'est juste un espèce de délire de concours de circonstances, voilà. Toujours un peu là, au bon moment, au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes. Puis voilà, en fait, c'est ça la popularité, quoi.
En gros, un mix de talent, de chance, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit.
Ouais, et puis en plus, c'est pareil, c'est un truc, le talent, c'est une notion sur laquelle j'ai vachement bossé aussi, parce que justement, cette espèce de syndrome de l'imposteur, c'était un peu ça. Je me disais, est-ce que je suis réellement talentueux? Qu'est-ce que ça veut dire, le talent et tout? Et puis en fait, après, c'est que mon point de vue, tu vois, mais j'ai réalisé aussi que le talent, en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on mystifiait vachement dans la société. Que dans la tête, dans l'inconscient général, le talent, c'est une espèce de grâce divine innée qui touche certaines personnes, etc. et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est vraiment un truc. Le talent, pour moi, c'est vraiment le concours de confiance confiance en soi et d'une technique maîtrisée. En fait, c'est juste ça, c'est juste du boulot et de la confiance, quoi, et des couilles. En fait, à partir de là, tout le monde est talentueux. À partir du moment où on se donne les moyens et qu'on désespère pas, enfin qu'on lâche pas le truc. Et du coup, bah tu vois, finalement, toutes ces notions-là additionnées, que ce soit voilà de la confiance en soi, du boulot, les bonnes personnes, les bons lieux, les bons timings, et ben ça donne cette espèce de comment dire de lancement de carrière en fait. Mais il y a pas de truc magique en fait. C'est vraiment presque un peu du marketing, quoi.
Ouais. En fait, faut aussi faire la paix avec soi-même et puis par rapport à voilà à son succès, c'est tout, c'est plutôt bien pour toi, mais pas non plus le prendre en mode je suis pas bien, je suis un imposteur et tout. Enfin, tu sais que t'es pas le premier artiste en tout cas à m'avoir dit ça.
Ouais, carrément. Et puis aussi pas le prendre comme étant waouh, je suis à la fois pas le prendre comme étant je suis un imposteur et tout, et puis en même temps pas le prendre comme je suis exceptionnel, je casse tout. Enfin, tu vois, c'est j'entends toujours rester humain à sa taille d'humain
et humble.
Voilà.
Donc tu disais dans une interview, si je dis pas de bêtises, c'était donc France 24, que le confinement t'avait fait beaucoup de bien et que ça t'avait permis de te recentrer, de créer, d'arrêter d'être constamment en tournée, etc. Donc finalement, cette crise, c'est une opportunité créatrice pour toi ?
Bah ouais, en fait, carrément. En fait, le confinement, ça m'a aidé, moi, alors ça m'a donné du temps. C'était quelque chose que j'avais plus l'habitude d'avoir vraiment à profusion, en fait, comme ça. J'avais pas, si vous, j'avais plus de deadline, j'avais plus d'exigence, j'avais plus de tournée ou de concert qui allait casser ma semaine ou un truc comme ça. Du coup, en fait, je pouvais me permettre de faire des choses, d'avoir des processus créatifs complètement ouf, genre de commencer un morceau, de faire une pause qui durait peut-être 2 jours, tu vois, puis d'y retourner 2 jours après. Et en fait, j'étais complètement en paix avec ce truc-là, alors que en temps normal, j'ai plus tendance à speeder les choses parce que je sais que il y a ça de prévu. Donc là, j'ai 5 heures pour faire de la musique. Vas-y, je m'y mets, mais en fait, c'est que 5 heures, c'est jamais assez, quoi. Du coup, le confinement a été hyper créatif pour moi, en tout cas, la première partie. Après, tu commences à t'essouffler un peu, et forcément, il faut aussi la vie quotidienne, les potes, les soirées pour te nourrir, quoi.
Ouais, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu commences un peu à tourner en rond chez toi et que ça devient compliqué.
Ouais, c'est ça.
On va se faire une interlude musicale avec le morceau Sequoia qui sortira sur son album Everything Will Grow Again le 26 juin. C'était Sequoia de Fakir. On reprend l'interview.
Et si tu n'étais pas parti dans une carrière musicale, tu aurais fait quoi?
J'aurais fait, je sais pas, il y avait pas mal de plans. Après, moi, ouais, mes parents sont musiciens tous les deux, donc il y a toujours eu cette espèce de truc, comment dire, de fond musical un peu en arrière-plan. Mais j'ai été aussi vachement intéressé à un moment donné par les métiers du spectacle, mais juste en termes techniques, tu vois. Moi, je voulais faire aussi, je voulais faire un jet son, même un jet lumière à un moment donné, etc. Bon, alors, du coup, c'est un truc qui a jamais pu aboutir vraiment parce que j'ai un bac littéraire, en fait, et que, du coup, c'est hyper bouché à partir de là. Et du coup, en fait, au départ, en fait, avant que Fakir se lance, je tentais tous les ans les écoles, les BTS audiovisuels et les trucs comme ça. Mmh. Sans que ça aboutisse. Du coup, j'imagine que j'aurais quand même persisté et essayé de faire ça. Ouais, voilà, quoi, les métiers du spectacle, un peu.
Ok, donc toujours un peu dans l'artistique aussi, quoi.
Ouais, ouais, carrément.
Et c'est quoi tes trois artistes préférés et pourquoi ceux-là?
Alors, mes trois artistes préférés de tous les temps, je vais essayer de faire une espèce de grosse synthèse. Un peu obligé de citer Bonobo, parce que c'est un peu lui qui m'a... C'est un peu été la première influence, c'était le premier coup de fouet pour lancer Fakir à proprement parler. Mm-hmm. En fait, ça a été la sortie de son album Black Sand en 2010. J'ai pris une grosse claque et en fait, je me suis dit, mais ok, c'est ça que je veux faire comme musique. Et puis même en termes de carrière, lui, c'est vraiment un mec que je prends aussi comme modèle en termes de parcours, parce qu'en fait, il a toujours occupé le terrain. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 15 ans qu'il est là. Et en fait, il a toujours su se renouveler, il a toujours su continuer à sortir du contenu qui était cohérent et intéressant. Et en même temps, il a jamais fait de tube, tu vois, mais tout le monde le connaît. Et du coup, il y a une espèce de truc un peu où il s'est installé par la force des choses et de manière organique. Il a jamais pris de buzz, il a jamais été trop médiatisé. C'est vraiment quelque chose, un profil qui est très intéressant pour moi. Après, je dirais des artistes préférés de tous les temps. Il y a quand même les Pink Floyd qui jouent un rôle très très important, surtout dans les morceaux que je suis en train de faire. Donc, c'est-à-dire même pas l'album qui va sortir, mais plutôt des trucs qui vont sortir après. Mm-hmm. J'ai été très fan. J'ai commencé à être très fan des Floyd au début du lycée. Et puis c'est un truc qui m'a jamais vraiment quitté. En fait, il y a vraiment une approche dans leur musique, dans le rock psychédélique de manière générale, mais chez eux aussi particulièrement. De très novateur, en fait, tu vois, ils utilisent les machines, ça a été un peu mon premier pas vers la musique électronique, ça a été eux, quoi. Et puis après, qu'est-ce que je pourrais citer? Troisième truc. Ouais, bah, je les cite souvent aussi, mais je pourrais citer Deep Forest quand même, parce que ça a été aussi une des pierres fondatrices de l'identité de Fakir, je pense. C'est un groupe de français, d'ailleurs.
Trip-hop, non, à moitié?
De quoi?
C'est un groupe de trip-hop, Deep Forest.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est une espèce de trip-hop world. Des fois, ils font des trucs un peu trans aussi, c'est rigolo. Et voilà, c'est le début des années 90, donc pour le coup, ils avaient eu, je crois, à l'époque, la victoire de la musique quand même de l'album World quand c'était sorti. C'est toujours actuellement la pub de Ushuaïa. Et en fait, eux, ça a été... Voilà, mes parents me faisaient écouter leur album, justement, leur premier album, quand j'étais tout petit, mais au berceau, tu vois, genre vraiment... Moi, j'en avais même pas conscience. Et en fait, c'est un truc qui m'a influencé sur le long terme, qui m'a vachement, vachement marqué dans l'utilisation particulièrement des samples, justement, de musique africaine et de petites voix, de tribus et tout, machin. C'est un truc que j'ai énormément utilisé par la suite. Et il y a des morceaux dans ma discographie qui sonnent vraiment, vraiment Deep Forest, quoi. Et puis, c'est toujours un groupe que j'ai plaisir à écouter. C'est toujours une espèce de bulle de sérénité, comme ça, quand j'ai envie, quoi.
Et dans la continuité de cette question, avec quel artiste tu rêverais de collaborer, encore vivant ou disparu?
Bah écoute, j'ai pas de réel fantasme de collaboration parce que c'est toujours un truc délicat en fait les featuring, c'est moi j'aime bien en fait pouvoir lier avec la personne avant, c'est-à-dire pouvoir parler d'autre chose que du boulot. Mm-hmm. En fait, pas mal d'expériences, j'en ai vécu pas mal comme ça aussi, de gens avec qui tu te dis putain là ce serait trop bien de bosser avec cette personne-là, puis en fait tu te retrouves et puis t'arrives pas à communiquer et en fait tu te rends compte que t'es pas du tout sur la même longueur d'onde et ça marche pas. Et à contrario, il y a aussi des personnes avec qui tu lis hyper facilement, mais en fait, musicalement, ça n'a pas marché, quoi. Moi, par exemple, ça a été mon cas avec Fauve à l'époque, et qui sont toujours d'ailleurs maintenant des très grands potes et tout. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, on traînait ensemble et tout, et c'était trop, trop sympa, mais c'était impossible de collaborer. C'était vraiment, on avait vraiment deux trucs, deux univers qui étaient un peu imperméables l'un à l'autre. Mais du coup, voilà, j'ai pas de réel fantasme. En fait, c'est un peu comme ça vient. Il y a un peu des accidents comme ça qui se produisent du type Alex Métrique. J'aurais pas eu l'idée de collaborer avec lui, mais pour le coup, bah, c'est fait trop bien. Je sais pas, il y aurait peut-être d'autres exemples. Même Ray Morris, avec qui j'ai beaucoup collaboré pour mon album Animal et tout, c'est une nana, pareil, sa carrière solo, c'est pas forcément la musique que j'écoute, mais en fait, ça s'est trop, trop, trop bien passé et le feeling était trop cool. Et donc voilà.
Donc là aussi, c'est quoi tes futurs projets collab sortis? Parce que là, tu reparlais, tu veux bosser sur un nouvel album, donc apparemment, d'après ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, bah en fait, je sais pas quelle forme ça aura encore, tu vois, c'est très flou, mais en fait, un peu cette initiation aux machines avec Alex Métrique et puis un peu de le voir bosser, ça m'a donné vachement d'inspi pour la suite. Mm-hmm. Et du coup, dès que je suis rentré de Londres, en fait, j'ai commencé à bosser sur un nouveau projet. Je sais pas encore quelle forme ça aura. Et puis le confinement a fait que j'ai pu vraiment aller au bout de ce truc, aller au bout de cette idée et du coup terminer ce projet. Donc ouais, effectivement, j'ai un peu plus ou moins un album de près dans mes tiroirs. Du coup, voilà, à voir quand est-ce que ça va sortir, comment, je sais pas sous quelle forme, si ça va être un EP d'abord ou j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais pas une pause après Everything Will Grow Again, quoi.
Ok, donc t'as une estimation de sortie ou pas encore?
Non, je sais pas du tout. En vrai, en plus, le truc de le Covid a fait un peu à reporter tout ce qui se passait. Donc en fait, tu vois, ma tournée de Everything Will Grow Again va commencer en mars 2021. Donc ça fait déjà un bout de temps. Du coup, forcément, avant que cette tournée se termine, je vais pas commencer à sortir d'autres trucs qui ont pas de rapport. Tu vois, je vais aller au bout du dossier, au bout de cet album. En plus, c'est un album que j'adore, Everything Will Grow Again, que j'aimerais bien bosser, que j'aimerais bien creuser vraiment profond. Et du coup, même quitte à sortir, tu vois, d'autres versions, des morceaux en plus dans cet album-là et tout. Donc, c'est pas l'histoire de cet album-là fait que commencer, à peine commencer. Donc voilà. Mais c'est rassurant. En fait, c'est rassurant pour moi d'avoir un peu un coup d'avance sur ce qui se passe, quoi. Parce que quand tu te retrouves une fois que t'as tout sorti, tous tes morceaux, puis tu vas te dire, bon, bah, faut que tu me relances dans quelque chose et que t'as rien. Et c'est un peu la panique.
Ouais, puis là, tu pourras défendre ton album en live aussi. Et c'est ça aussi qui est important pour toi, pour te faire plaisir avec ton public.
Oui, oui, bah ouais, complètement. En fait, j'ai pas envie de direct passer sur un autre dossier, alors que celui-là est pas du tout fini, quoi.
Est-ce que tu auras un petit mot pour conclure?
Bon, écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? J'en sais rien. À tous ceux qui accèdent à ma musique maintenant avec cet album-là, bienvenue. Voilà.
Eh bien, en tout cas, merci Fekir de m'avoir accordé cette interview. C'était un plaisir de t'avoir afin que l'on discute de ton projet musical. Alors, pour rappel, ton nouvel album Everything Will Grow Again sortira le 26 juin. Donc, encore un grand merci à toi. Donc, c'était Fekir pour Radio Pulse. Passe une excellente journée.
Merci à toi.
Salut.
C'était l'interview de Fekir. Encore un grand merci à lui.